Mardi 10 juillet 2018 et voici le quotidien des quotidiens, votre revue de presse. Avec vous pour les prochaines deux heures, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis, laquelle est en vacances prochain. Mais je ne suis pas seul puisque Jean-Sébastien Laliberté est demeuré avec moi pour assurer la régie en ondes et éviter mes inévitables écarts de conduite, voilà.
Oui, mais je suis resté par pitié, François, mais c'est exact.
Jean-Sébastien a aussi le devoir de témoigner de l'histoire, celle avec un grand H. L'histoire du 10 juillet, donc.
L'histoire du 10 juillet, alors, tout d'abord, en 1534, le navigateur Jacques Cartier atteint un endroit de Gaspésie qu'il baptise Baie des Chaleurs. 1676, Charles Lemoyne devient premier baron et deuxième seigneur de Longueuil. 1900, toujours un 10 juillet, inauguration du métro parisien. En 1929, le maire de Montréal, Camillien Houde, devient chef de l'opposition à Québec. En 1938, Howard Hughes achève un tour du monde en avion dans le temps record de 91 heures et 14 minutes. Je n'ai cependant pas les informations à savoir de quel côté il a fait son tour, à savoir si les fuseaux horaires étaient en sa faveur. 1962, lancement du satellite Telstar, prévu pour la télévision transatlantique. 1978, toujours un 10 juillet, le confiseur Cadbury ferme son usine de Montréal. 1996, un bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, est coulé à l'explosif par des agents français dans le port néo-zélandais d'Auckland. Un photographe néerlandais est tué dans l'attentat. 1991, Boris Eltsine devient le premier président élu en Russie. Le mois suivant, il sortira renforcé d'un putsch raté visant Gorbatchev, chef du Parti communiste. En 2002, toujours un 10 juillet, beaucoup de choses aujourd'hui, pour 255 millions de dollars, Transcontinental achète Canwest Global, donc on parle de 10 quotidiens et autres journaux en Saskatchewan et dans les Maritimes. En 2003, la photojournaliste montréalaise d'origine iranienne Zahra Kazemi meurt après avoir été détenue pendant plusieurs jours à Téhéran. Fait divers un peu triste, en 2006, un 10 juillet, dans un parc aquatique de Saint-Pie en Montérégie, un garçon de 7 ans perd les deux pieds en étant aspiré dans une conduite après avoir glissé dans des glissades d'eau. Il est donc aspiré et a passé. En tout cas, je vous épargne les détails. On a juste à se rappeler que malheureusement, il a perdu ses deux jambes suite à cet accident. En 2009, l'autorité des marchés financiers obtient une ordonnance judiciaire pour geler les comptes gérés par Earl Jones, un Montréalais soupçonné d'avoir fraudé pour un montant évalué entre 30 et 50 millions de dollars. 10 juillet 2015, deux événements, ouverture des Jeux panaméricains de Toronto devant plus de 45 000 personnes, et pour la première fois, dans un tout autre endroit, pour la première fois depuis le mouvement des droits civiques, le drapeau confédéré a été retiré de l'enceinte du Capitole de la Caroline du Sud, le drapeau de la Confédération qui est donc intrinsèquement lié au racisme et à la ségrégation qui a eu lieu l'esclavagisme dans le sud des États-Unis. Naissance en ce 10 juillet du réformateur religieux Jean Calvin en 1509, 1871, naissance de l'écrivain Marcel Proust, 1895, Karl Orff, le compositeur entre autres de Carmina Burana, 1896, naissance de la militante féministe Thérèse Casgrain, et 1856, naissance de l'inventeur Nikola Tesla. Finalement, décès 1979 du chef d'orchestre Arthur Fiedler, lui qui a connu la gloire avec les Boston Pops. Et 1989, la voix de Bugs Bunny, Speedy Gonzalez, la voix originale de Bugs Bunny, Speedy Gonzalez et autres personnages des Looney Tunes, Mel Blanc, décède.
Merci Jean-Sébastien. Alors, pleine nouvelle aujourd'hui, et je sens que j'arriverai pas à passer à travers la moitié de ce que j'ai préparé, alors je prends pas de chance, je vous le dis tout de suite, les 13 personnes, donc les 12 enfants et l'entraîneur, ont réussi à être évacués de la grotte, voilà, c'est fait, on y reviendra en abordant les pages du devoir, mais pour tout de suite, on passe à la presse. À la presse et à un texte intitulé « OTAN, le sommet de tous les dangers », un texte de Maxime Bergeron. Oui, bon, je le sais, l'OTAN, c'est presque du vintage aujourd'hui quand on parle de relations internationales, mais ça reste l'alliance militaire la plus puissante, peut-être, de tous les temps. Après le fiasco spectaculaire du G7 le mois dernier dans Charlevoix, tous les scénarios semblent maintenant possibles au sommet de l'OTAN qui s'amorce demain à Bruxelles. Donald Trump a donné le ton en envoyant une série d'ultimatums à ses alliés au cours des dernières semaines et il laisse planer la menace de faire éclater cette alliance de défense formée en 1949, explique notre envoyé spécial en Belgique. Le sommet de l'OTAN qui s'ouvre demain à Bruxelles devait être une occasion d'afficher un front uni devant la menace russe. Les 29 pays membres de l'organisation passeront plutôt les prochains jours à surveiller attentivement les agissements et les messages sur Twitter de Donald Trump, qui a qualifié cette organisation militaire d'obsolète et d'aussi mauvaise que l'ALENA. L'événement tenu sous haute sécurité dans le nouveau quartier général ultramoderne de l'OTAN marquera aussi la première rencontre entre le président américain et le premier ministre Justin Trudeau depuis la débâcle du G7 au Québec. M. Trump a multiplié les insultes à l'endroit du dirigeant canadien après avoir renié le communiqué final de ce sommet, en plus de menacer d'imposer de nouvelles surtaxes sur les exportations automobiles. Avec Donald Trump, on ne sait jamais ce qui pourra se passer, résume Benjamin Zila, professeur agrégé de l'École de développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa et grand spécialiste de l'OTAN. Donald Trump a donné le ton en envoyant une salve de messages courroucés au sujet de l'OTAN hier sur Twitter. Il a dénoncé que les États-Unis paient 90 % de l'OTAN, une information qui ne repose sur aucune statistique vérifiable. En fait, il s'agirait plutôt de 71 %. Ajoutant que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord profite beaucoup plus à l'Europe qu'aux États-Unis. Si l'issue du sommet de deux jours est impossible à prévoir, le professeur Zila, comme la plupart des analystes, s'attend à ce que la question du financement de l'OTAN domine les échanges. Il faut dire que le président américain avait déjà mis la table ces dernières semaines en envoyant une série de lettres au ton acerbe à plusieurs pays membres de l'organisation, incluant le Canada. Le contenu de ces missives a filtré abondamment dans les médias. Dans sa lettre adressée à Justin Trudeau, Donald Trump a encore une fois demandé à son voisin d'augmenter ses dépenses militaires, faisant état d'une frustration croissante aux États-Unis. Donald Trump déplore que le Canada consacre toujours moins de 2 % de son produit intérieur brut, le PIB, à son budget militaire, ce qui compromet la sécurité de l'Alliance, selon lui. La majorité des pays membres de l'OTAN se sont engagés en 2014 à allouer 2 % de leur PIB à leur budget militaire respectif d'ici à 2024, une cible que le Canada est loin d'atteindre avec un taux de 1,29 l'an dernier. Ottawa se défend toutefois de ne pas en faire suffisamment pour contribuer à l'organisation. Le Canada a annoncé l'an dernier une hausse de 70 % du budget de la défense nationale d'ici 10 ans, a indiqué à la presse René Filiatreau, attaché de presse du ministre de la Défense Arjit Sahyan. L'augmentation prévue fera passer la part du PIB consacrée à la défense à 1,4 en 2024-2025, ce qui reste loin de la cible de 2 % Ce plan a été rigoureusement chiffré et répond aux besoins du Canada en matière de défense, fait-elle valoir. Il confirme également notre rôle de longue date comme contributeur actif à la paix et à la sécurité mondiale. René Filiatreau souligne que les forces canadiennes ont contribué à toutes les opérations de l'OTAN depuis sa création il y a presque 60 ans, incluant celles en Afghanistan, en Libye et dans les Balkans. Histoire de prouver l'engagement du Canada dans l'OTAN après les critiques salées de Donald Trump, Justin Trudeau s'est arrêté hier pour un séjour de deux jours en Lettonie avant son arrivée à Bruxelles. Le premier ministre visitera aujourd'hui les 450 soldats canadiens postés dans ce petit pays balte, une manière de réaffirmer l'engagement du Canada en matière de sécurité transatlantique. Il devrait aussi annoncer le prolongement de la mission canadienne en Lettonie au-delà de 2019, selon CBC. L'OTAN se retrouve aujourd'hui plus occupée qu'elle l'a été depuis longtemps en raison de l'escalade militaire avec la Russie aux frontières de pays limitrophes comme la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. L'invasion de la Crimée par Moscou en 2014 a fait bondir le niveau de tension avec la Russie dans cette région. Or, si les critiques de Washington en matière de financement de l'OTAN ne datent pas d'hier, le ton et la manière employés par Donald Trump avec ses lettres vitrioliques envoyées à plusieurs alliés sont toutefois scandaleux, estime le professeur Zila. Vous ne pouvez aborder cette question dans des discussions bilatérales, mais vous ne faites pas ça. Vous pouvez, oui, aborder cette question dans des discussions bilatérales, mais vous ne faites pas ça devant tout le monde, publiquement, pour humilier vos amis. Comment traitez-vous vos amis qui ont été vos alliés depuis 45? Triste jour pour l'aéronautique québécoise, puisque c'est aujourd'hui que Airbus efface le nom de la C-Series de Bombardier. C'est un texte qui nous vient de Toulouse, de la presse canadienne. Airbus n'a pas lésiné avant d'effacer le nom de la C-Series de Bombardier, rebaptisant mardi le programme A200, 10 jours après en avoir officiellement pris le contrôle. L'annonce a été effectuée à Toulouse, aux installations du géant européen, qui a présenté la nouvelle appellation ainsi que les nouvelles couleurs de l'avion. Les appareils A220-100 et A220-300 remplaceront ainsi les CS-100 et CS-300, qui étaient les deux versions de l'avion développé par Bombardier dans le segment des appareils de 100 à 150 places. Ce changement confirmé par Airbus s'effectue dans le cadre d'une harmonisation de son portefeuille de produits, puisque la C-Series se trouvait tout juste sous la famille A320 de l'avionneur européen. Pour une rare fois, un employeur a été trouvé criminellement responsable de la mort d'un de ses employés. Louis-Samuel Perron nous en parle dans la presse. Ouvrier mort enseveli, la couronne réclame 3 ans et demi de prison. Mon père a été enterré vivant. J'ai voulu comprendre à m'en rendre malade. On ne vit pas dans un pays du tiers-monde, nous sommes au Québec, s'indigne Karine Galland-Lévesque. 6 ans plus tard, elle peine toujours à surmonter la mort de son père, Gilles Lévesque, mort enseveli dans une tranchée non sécurisée par son patron. Sylvain Fournier est devenu le premier entrepreneur au Québec reconnu coupable de l'homicide involontaire de son employé en mars dernier. Gilles Lévesque est mort enseveli au fond d'une tranchée par un tas de gravier posé trop près du bord dans l'arrondissement de Lachine le 3 avril 2012. Son employeur n'avait pas sécurisé les parois du trou par un étançonnement comme l'exige la loi sur la santé et la sécurité du travail. La Couronne a réclamé hier une peine de 3 ans et demi de pénitencier pour Sylvain Fournier en raison de sa responsabilité totale dans la mort de son ouvrier de 55 ans. La procureure, maître Sarah Laporte, n'a trouvé qu'une seule jurisprudence similaire en Ontario. La défense a demandé au juge une peine de 90 jours de prison à purger de façon discontinue, assortie d'une probation de 3 ans et de 240 heures de travaux communautaires. Gilles Lévesque était un homme honnête, responsable et fiable, a confié sa fille aînée dans une lettre lue à la cour par l'enquêteur. Mon père, c'était un homme bon, un Gaspésien avec du cœur à l'ouvrage. Il respirait la joie de vivre et était toujours présent pour sa famille et ses amis, dépeint Karine Galland-Lévesque. Quelques jours avant de trouver la mort, Gilles Lévesque était fier comme un paon d'annoncer à sa fille qu'il venait de s'inscrire à un cours pour obtenir ses cartes de compétences en construction. Il travaillait depuis des années pour Sylvain Fournier sans détenir ses cartes obligatoires. Il m'a appris que ça faisait 2 fois qu'il se retrouvait à moitié enseveli jusqu'aux genoux l'année précédente. C'était rendu trop dangereux, explique-t-elle dans sa lettre. Sébastien Blanc de l'agence France Presse nous dit que ça y est, Donald Trump a fait son choix. Le juge conservateur Brett Kavanaugh est nommé à la Cour suprême. Le président Donald Trump a nommé lundi le magistrat Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, ancrant ainsi dans le conservatisme l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège d'annoncer que je nomme à la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh, un juge aux références impeccables, a déclaré M. Trump au terme d'un suspense savamment orchestré par la Maison-Blanche. L'annonce de M. Trump était très attendue par sa base électorale qui sait combien un juge de la Cour suprême désigné à vie offre une garantie sur le long terme. Cette occasion rare a découlé du départ à la retraite inattendu du juge Anthony Kennedy, 81 ans, l'un des 9 sages de la Haute Cour. Actuellement juge à la Cour d'appel de Washington, Brett Kavanaugh, 53 ans, a été conseiller juridique de l'ancien président républicain George Bush. L'heureux élu s'est dit profondément honoré d'avoir été choisi. Début 2017, le président américain avait déjà eu l'occasion de promouvoir à la haute instance un juge conservateur, Neil Gorsuch. Avec Brett Kavanaugh, la juridiction chargée de veiller à la constitutionnalité des lois comptera une solide majorité de 5 membres conservateurs contre 4 progressistes. Ce rapport de force devrait permettre de sabrer les velléités locales, de réglementer les armes à feu, donner des gages aux chrétiens conservateurs, conforter les partisans de la peine de mort, appuyer les lobbies patronaux et s'opposer à un plafonnement des financements électoraux, évidemment sans parler de l'avortement. Il reste bien sûr au Sénat à avaliser cette nomination, ce qui n'est pas tout à fait gagné. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face, who can help you? Just a pretty face, who can help you? Get your shit together at your own pace. Baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting life before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
On vient d'entendre la pièce Main Girl de Charlotte Cardin, qui elle sera en spectacle ce soir au Festival d'été de Québec vers 21h sur la scène Loto-Québec.
Et je serais presque tenté de dire profitez-en pendant qu'elle est encore au Québec, puisque la carrière de Charlotte Cardin va s'envoler, c'est une question de temps. Alors, on passe aux pages du Devoir et donc à ces bonnes nouvelles en provenance de Thaïlande. Opération terminée en Thaïlande, les 13 jeunes évacués. Un texte de Thanaporn Promyanyai et de Richard Sargent de l'agence France-Presse. Les 12 enfants et leur jeune entraîneur de football coincés pendant 2 semaines dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande, dont tous étaient évacués avec succès, ont annoncé les secouristes mardi soir. Les 12 sangliers sauvages et leur entraîneur ont été extraits de la grotte, ont annoncé les commandos de marine thaïlandais au cœur de l'opération sur leur page Facebook. L'équipe de football des enfants s'appelle les sangliers sauvages. Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se faufiler, le parcours est semé d'embûches. Les 8 sorties dimanche et lundi hospitalisés sont en bonne santé, a déclaré Jessada Chokedam Grongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant les journalistes à l'hôpital de Chiang Rai. Tout le monde est en bonne santé mentale. Les enfants subissent des examens radiologiques et des tests sanguins. 2 garçons qui présentaient des signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un état normal, a-t-il ajouté, précisant qu'ils resteraient tous en observation à l'hôpital pendant 1 semaine, dans un premier temps en quarantaine. La Thaïlande tout entière est suspendue à la saga des 12 enfants et de leur entraîneur de 25 ans bloqués dans le vaste réseau souterrain depuis le 23 juin par la montée des eaux. Le drame passionne aussi à l'étranger. Les médias internationaux ont envoyé des centaines de journalistes sur place. Les enfants ont reçu des messages de soutien de célébrités aussi diverses que le président Donald Trump, la star de football Lionel Messi et le gourou américain de la technologie Elon Musk. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait même invité les enfants à assister à la finale du Mondial 2018 le 15 juillet à Moscou. Ils ne peuvent pas y aller, ils doivent rester à l'hôpital pendant un moment, a déclaré Chongchai Lertwiller Ratanapong au responsable du ministère de la Santé lors de la conférence de presse à l'hôpital de Chiang Rai. Amélie Daou-Boisvert nous parle quant à elle d'un nouveau recours intenté contre Québec. Le titre dit tout. Québec poursuivi pour maltraitance au nom de résidents des CHSLD. Le Conseil pour la protection des malades poursuit Québec pour maltraitance. L'organisme de défense des droits des usagers du réseau de la santé a annoncé par communiqué avoir déposé une requête d'autorisation d'une action collective pour maltraitance au nom des résidents des CHSLD du Québec, en raison de la dégradation marquée des soins et des services qui sont offerts dans ces établissements. Un montant de 350 à 850 $ par mois de vie en CHSLD pour chaque résident depuis 3 ans est réclamé à titre de dommage. Tous les établissements de santé gérant des CHSLD au Québec sont visés. Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, s'est refusé à tout commentaire devant une conférence de presse avant une conférence de presse prévue mercredi après-midi. La requête envoyée aux médias allègue que les résidents ont été privés de services de santé et de services sociaux adéquats, suffisants et de qualité durant les 3 dernières années. Selon la requête, les CHSLD du Québec ne constituent pas un milieu de vie substitut acceptable respectant les prescriptions de la loi, les orientations ministérielles et les autres exigences posées par le gouvernement. Un des co-demandeurs de cette action collective, Daniel Pilote, est un homme dans la 50aine atteint de dystrophie musculaire. Résident en CHSLD depuis 2014, il se déplace en fauteuil roulant. Il est privé de la mobilité de presque tout son corps, sauf pour sa tête et sa bouche. Il a à plusieurs reprises dénoncé les conditions de vie qui règnent dans les CHSLD, dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Selon les observations de M. Pilote, citées dans la requête depuis 2 ans, les membres du personnel soignant sont moins nombreux. Ceux qui restent sont surchargés et épuisés, ce qui se reflète sur la qualité des soins qu'ils prodiguent. Sur son étage, pour 32 patients, il y a 4 préposés, ainsi qu'un seul infirmier de nuit pour l'ensemble des 111 résidents du CHSLD, indique la requête. M. Pilote se dit lavé de manière inadéquate, si bien que, parfois, il se sent même encore sale. Les soins à son endroit sont qualifiés de complètement impersonnels et empreints d'incompétence. De plus, M. Pilote estime être victime régulièrement d'erreurs médicales. Ses lacunes font en sorte qu'il rate ses rendez-vous et ne réussit pas à contrôler sa vie, précise la requête. Il se sent humilié, maltraité et déprimé, ajoute-t-on, ce qui affecte jusqu'à son désir de vivre. La requête dénonce de nombreux manquements, comme l'unique bain hebdomadaire, la gestion des culottes d'incontinence, l'absence de services d'hygiène dentaire et de soins avec des ongles, et l'absence de suivi médical adéquat. Elle pointe également du doigt le recours de manière abusive aux antipsychotiques afin de plonger des résidents dans un état d'apathie, de sommeil et de somnolence tôt dans la journée en vue de réduire le travail du personnel. Les contentions physiques sont aussi dénoncées, de même que la mauvaise qualité des repas et la faible prise en compte de l'horaire de vie de chacun. Andréanne Chevalier rapporte que le calme revient peu à peu à Haïti, mais l'incertitude demeure, c'est le titre de son texte. Les rues de Port-au-Prince étaient plus calmes lundi, 3 jours après l'annonce, depuis suspendue, mais ayant soulevé la colère de la population, par le gouvernement de la fin des subventions au carburant. Mais l'incertitude quant à la suite des événements demeure, alors que les appels à la démission du président et du premier ministre se font entendre. La circulation était faible et les rapports publics interrompus lundi à Port-au-Prince, les transports publics, pardon, à Port-au-Prince. Les banques et des entreprises étaient fermées. La grève générale, appelée par les contestataires, a été suivie. Les rues étaient débarrassées des nombreuses barricades qui avaient été érigées, même si quelques escarmouches entre des groupes de manifestants et des policiers ont été rapportées dans la capitale. Des habitants tentaient de se réapprovisionner en nourriture et en carburant. L'annonce faite par le gouvernement vendredi après-midi de l'augmentation des prix de l'essence de 38 % du diesel de 47 % et du kérosène de 51 % avait immédiatement suscité la colère chez la population. L'éclatement de violences et d'émeutes au cours desquelles au moins 3 personnes sont mortes a fait reculer le gouvernement samedi, qui a finalement suspendu la mesure pour une période indéterminée. Mais la situation n'est pas réglée pour autant. Le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine se trouvent maintenant sur des sièges éjectables. On leur reproche, entre autres, leur manque de leadership. Encore quelques secondes pour vous dire que la Reinette Faugrillon vient de gagner. Ça y est, la saga judiciaire est terminée et le projet immobilier qui l'aurait privé de son habitat sur la rive sud va demeurer interdit. Son habitat est donc sauf. Bravo, la Reinette, une toute petite grenouille, grosse comme un ongle. Restez avec nous, on revient avec le Journal de Montréal.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
J'ai l'air sage si tu savais, je ne le suis pas. Tu rougirais si tu voyais tout ce que je vois. Dis-moi, je crois. Je connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Je connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Mais j'ai chaud comme si je sentais que le mélange des corps et parfums se dévore des yeux en secret.
Ma tête tourne, mais mon corps sait que ton corps sait. Ma tête tourne, mais mon corps sait que ton corps sait. Et je n'arrête pas de regretter.
Les visages, mon corps, autant que tu le voudras. Encore une fois. connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Je connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Ma tête tourne.
Jolie ne veut pas de love, non, seulement la flamme de mon feu. Jolie ne veut pas de love, non, seulement me ride comme un surf. Jolie ne cherche pas de héros, Jolie ne cherche pas Roméo. Ever ride avec le devil, ever ride avec le devil. Appel au secours, chance droit vers ses courbes. Elle me dit tais-toi, écoute, penche-toi, écoute. Pas droit au but, ne doute pas, la peau qui brûle, la tête qui tourne, sans la secousse. Quand on se touche, le soleil se lève alors qu'on se couche.
On vient d'entendre une nouveauté, la pièce s'intitule Le Sorbet Collant, et c'est deux noms qu'on connaît bien, mais avec une sonorité qu'on n'est pas habitué d'entendre avec ces noms-là, Stéphanie Boulay, du duo Les Sœurs Boulay, et Ingrid Saint-Pierre.
On passe au Journal de Montréal où Hugo Duchesne nous apprend, c'est le titre, que les Québécois se font de plus en plus soigner à l'extérieur. Les Québécois se font de plus en plus soigner dans d'autres provinces, refilant une facture totale de plus de 258 millions de dollars à la RAMQ l'an dernier, selon des données obtenues par le journal. Depuis près de 10 ans, la facture des services professionnels ou hospitaliers prodigués aux Québécois dans une autre province a grimpé de 63 %. Les services professionnels incluent les honoraires des médecins, alors que les services hospitaliers sont les coûts remboursés aux établissements. L'an dernier, environ 150 000 Québécois ont vu un médecin ailleurs au Canada et plus de 130 000 ont séjourné dans un hôpital, une urgence ou une clinique externe. C'est énorme, s'étonne Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades. Selon lui, le tourisme à lui seul ne peut expliquer ces données. Ce sont de gros chiffres et difficilement explicables autrement que par le fait que quelqu'un qui ne peut pas avoir ce dont il a besoin au Québec, il va aller ailleurs, déplore-t-il. La Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, précise qu'elle paie aux médecins et hôpitaux des autres provinces le montant que coûterait le même service au Québec. Si le service coûte plus cher, la différence à payer revient aux patients. Des Québécois interrogés par le journal soutiennent faire le choix d'aller en Ontario, notamment car ils y obtiennent un meilleur service. Par exemple, Alexandra Loisel-Goulet n'hésite pas à partir de Salaberry de Valleyfield et rouler 40 minutes pour se rendre à l'hôpital d'Alexandria en Ontario. Elle est certaine qu'elle revient chez elle plus rapidement que si elle se rendait à l'hôpital de sa ville où le taux d'occupation de l'urgence atteignait 295% hier. C'est rapide et efficace. Je n'irai plus jamais au Québec. Mais ce n'est pas juste le temps d'attente, c'est aussi le sourire des gens. Les premières fois que j'y suis allée, j'avais l'impression d'être dans une comédie musicale, dit la femme de 38 ans. Elle n'est pas la seule, puisque la directrice des services financiers du Glengarry Memorial Hospital à Alexandria, Linda Ramsey, dit que de 25 à 30 % des patients à l'urgence sont québécois. Ça fait notre affaire, on aime ça, lance-t-elle, soulignant que les montants facturés à la RAMQ sont assez substantiels, sans vouloir dire combien exactement, et viennent gonfler leur budget. Résidente de l'Ange Gardien en Outaouais, Michèle Roy a décidé d'accoucher en Ontario après une visite à l'hôpital de Gatineau où elle a trouvé le personnel froid. Depuis plus de 10 ans, ses deux enfants sont même suivis par un médecin de famille en Ontario. Pour sa part, Sylvie Jonca a choisi de se faire opérer à l'épaule en Alberta avant même d'y déménager, exaspérée par les temps d'attente. Avec ses résultats d'une résonance magnétique subie au privé au Québec, l'hôpital de Banff l'a mise sur une liste d'attente et l'a opérée 6 semaines plus tard. « C'est le jour et la nuit », souffle-t-elle. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrett, ne s'inquiète pas de voir de plus en plus de Québécois se faire soigner dans une autre province canadienne. « Je ne vois pas de problème avec ça », assure-t-il. « C'est normal parce que les Québécois sont de plus en plus mobiles et vont à l'extérieur pour leur travail », soutient le ministre. Pourtant, les données de la RAMQ montrent que ce sont environ 150 000 Québécois qui consultent un médecin ailleurs qu'au Québec depuis plusieurs années. Les montants que rembourse la RAMQ augmentent encore plus rapidement. « On ne peut pas empêcher ça et ça n'a aucune incidence », dit-il, ajoutant qu'il n'y voit pas une perte de confiance des malades envers le système de santé. « Cet argent-là serait dépensé, ce serait le même montant », ajoute-t-il, puisque la RAMQ rembourse aux provinces le coût d'un même service au Québec. Pourtant, le ministre dénonçait au quotidien Le Droit il y a 2 ans que les fonds québécois servaient à financer les rénovations de l'hôpital d'Hawkesbury en Ontario, car les patients québécois y étaient de plus en plus nombreux. C'est pourquoi le gouvernement devait s'engager à construire un hôpital à Vaudreuil, disait-il à l'époque, un projet qui va d'ailleurs de l'avant sur des terres agricoles. Le ministre dit maintenant que l'inverse est aussi vrai et que des Canadiens viennent se faire soigner dans la belle province. Par ailleurs, Gaétan Barrett se réjouit de voir que le nombre de Québécois qui se font soigner ailleurs dans le monde est en baisse. Il y a 10 ans, le journal rapportait que les soins remboursés par la RAMQ pour des soins dans un autre pays explosaient. Mais depuis les 15 millions de dollars remboursés en 2009, la facture a diminué à un peu plus de 11 millions l'an dernier. Pour le ministre de la Santé, il s'agit d'une bonne nouvelle, montrant l'amélioration de la qualité et la diversité des soins offerts au Québec. La police de Montréal nous a habitués au cours des dernières années à avoir des problèmes au sein de son état-major. Eh bien, il semblerait que la SQ soit pas à l'abri de tout blâme, du moins s'il faut en croire Éric Thibault, qui signe un texte intitulé « Un ancien haut gradé réclame 850 000 $ à la Sûreté du Québec ». Un ex-haut gradé de la SQ réclame 850 000 $ à la police provinciale qui l'accuse d'avoir orchestré son départ en l'intimidant, le tablettant et en le traitant de bon à rien. Dans sa poursuite déposée en juin, Pierre Simard allègue que la SQ l'a poussé vers une retraite prématurée en créant un climat de travail insupportable qu'il compare à un calvaire. L'ancien inspecteur-chef s'estime victime d'un congédiement déguisé et injustifié du corps policier dont il a fait partie durant 29 ans. Cet ex-dirigeant du poste de Baie-Comeau est devenu commandant du district Montréal-Laval-Laurentide-Lanaudière de la SQ basé à Mascouche en 2011 avant d'être dégommé. Simard soutient que Martin Prudhomme, qui venait de prendre la direction générale de la SQ, l'a convoqué à son bureau en février 2015 pour lui dire qu'il n'était pas content de l'organisation actuelle du service, mais qu'il avait besoin du demandeur, allègue celui qui était confiant pour la suite des choses. 3 mois plus tard, on l'aurait plutôt sommé, sans aucune explication, de vider son bureau à Mascouche parce qu'on lui retirait son poste de commandant pour le rapatrier à Montréal. À l'époque, le directeur Prudhomme, maintenant chef intérimaire du service de police de la ville de Montréal, avait entrepris un grand ménage dans la structure administrative de la SQ qui s'est soldé par une réduction de 60 postes de cadre. Simard est devenu négociateur patronal et son premier mandat a été de défendre ces changements face à sa propre association professionnelle, celle des officiers de la SQ. Sous le choc, Simard se serait fait dire par un patron qu'il était mieux de taire son mécontentement ou ce sera la fin pour lui. Selon Francis Alain, la moitié des emplois seront transformés d'ici 15 ans. Près d'un emploi sur deux risque d'être transformé ou éliminé au Québec d'ici 15 ans en raison de l'automatisation, l'intelligence artificielle et la robotisation. Cette statistique provient du Brookfield Institute, affilié à l'Université Ryerson à Toronto. Tous les secteurs de l'économie vont y passer. Des usines multiplieront leurs départements d'automatisation. Des robots iront dans les mines et les allées des supermarchés. Des drones feront le travail des monteurs de ligne. Plus de 85 % des emplois qui vont naître d'ici 2030 n'ont pas encore été inventés, selon un rapport de l'Institute for the Future et Dell publié l'an dernier. Plusieurs patrons d'entreprises estiment toutefois que pendant ce temps, de nombreux postes disparaîtront. Plus de la moitié, 54 % en fait, des dirigeants d'entreprises au Canada prévoient qu'au moins un emploi sur cinq dans leur organisation n'existera plus d'ici cinq ans, selon une enquête de Mercer. En plus de perdre leur travail, certains salariés vont s'appauvrir, selon la directrice générale Bain & Company Macro Trends Group, Karen Harris. Au total, plus de 80 % de la main-d'œuvre risque d'être touchée par des pertes d'emploi ou des baisses de salaire à cause de l'automatisation, prévient-elle. Par exemple, un journalier d'entrepôt qui travaille avec des robots bon marché aura toute la misère du monde à obtenir son augmentation de salaire, souligne Mme Harris. Les vendeurs de magasins au détail sont probablement ceux qui subiront le plus de pertes d'emploi, craint le directeur du Brookfield Institute, Sean Mullen. La vague se fera fortement ressentir dans la restauration rapide, selon M. Mullen. Les embauches se feront rares en raison de l'installation de bornes interactives, même s'il y aura encore quelques vrais travailleurs, dit-il. Les conducteurs de véhicules lourds vont aussi y goûter. Avec l'arrivée des véhicules autonomes, le besoin d'avoir un être humain qui conduit un camion est, par exemple, éliminé, observe-t-il. Les chauffeurs de taxi, les caissiers de banque vont disparaître et les travailleurs de la santé, physiothérapeutes et entraîneurs médicaux vont apparaître, pense le fondateur du laboratoire de robotique de l'Université Harvard, Roger Brockett. Au gouvernement du Québec, on qualifie d'alarmiste l'étude de Brookfield Institute, selon laquelle 41,9 % des emplois seront à risque, peut-on lire dans une note interne du ministère du Travail datant de mai 2017. De leur côté, plus d'un Québécois sur deux a peur que l'intelligence artificielle et l'automatisation se traduisent en perte d'emploi, selon une étude du Cyrano. Qu'est-ce qui va se passer pour les boulots? Quand la moitié de mes collègues seront des robots, à quoi va ressembler la vie en entreprise? Se demandent les gens, selon Sylvain Duranton, directeur monde de BCG Gamma, la branche d'intelligence artificielle du Boston Consulting Group. Plusieurs types d'emplois ont le potentiel d'être en partie ou complètement automatisés en Amérique du Nord, selon une analyse du cabinet de conseil McKinsey. À partir de celle-ci, nous avons classé certains emplois selon leur degré d'automatisation. On peut les mettre en trois branches, en sécurité, en transformation ou en danger. Pour vous donner une idée, les professeurs, par exemple, sont considérés en sécurité, mais les gens qui travaillent en usine, eux, sont extrêmement en danger.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days
can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city.
Retour en 1966 avec la formation The Lovin' Spoonful, Summer in the City.
Nouvelle régionale et on commence tout de suite en parlant de la canicule de la semaine dernière qui est officiellement terminée. Ceci dit, c'est pas une raison pour faire des imprudences. Mauvaise nouvelle donc en provenance de Québec. Marc Allard dans Le Soleil nous parle d'un coup de chaleur mortel. La chaleur extrême a tué un travailleur de la construction qui s'affairait sur le chantier du nouveau centre de distribution de la maison Simons la semaine dernière à Québec, a appris Le Soleil. Jeudi, en début d'après-midi, Guy Bolduc, un beauceron de 35 ans, travaillait au coffrage lorsqu'il a subi une insolation. Après avoir ressenti un malaise, M. Bolduc a été transporté par un collègue à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Il est décédé d'un coup de chaleur, confirme Julie Fournier, porte-parole de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, qui a amorcé une enquête sur les circonstances de l'accident de travail. La région de Québec semblait jusqu'ici avoir échappé à la vague de décès causée par la chaleur extrême de la semaine dernière. La mort de M. Bolduc porte à au moins 61 le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cette canicule. Le drame a bouleversé les collègues de M. Bolduc chez Coffrage MR, une entreprise située à Saint-Benoît-Labre, en Beauce. Tendance, je vous disais tout à l'heure que l'OTAN, ça peut paraître vintage, mais le camping, lui, est-il encore d'actualité? Eh bien, il semblerait que oui, et vous allez voir pourquoi dans ce texte de Myriam Arsenault du Quotidien, les terrains de camping saisonniers se font rares. Pour les nouveaux campeurs, trouver un terrain de camping saisonnier peut prendre des années, avec les centres de villégiature qui accumulent les listes d'attente et quelques centaines de noms, oui. Seulement deux terrains réservés pour cette clientèle seraient encore disponibles dans la région du Saguenay parmi la dizaine de campings rejoints par Le Quotidien. Ces deux terrains sont situés au camping de la Chute à l'Ours, à Normandin. La responsable du service à la clientèle, Mélissa Asselin, pense qu'ils ne resteront pas libres encore longtemps. « Nous avons une liste d'attente et nous permettons aux gens intéressés de dire non trois fois avant de retomber à la fin de la liste. Présentement, tout le monde a été appelé et il reste deux terrains disponibles. Ils devraient être pris cette semaine, a confirmé la responsable. La dizaine d'autres campings au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'avaient pas de disponibilité pour cet été, et ce malgré un nombre impressionnant de terrains dans la région. Certains campings comptent jusqu'à 150 terrains réservés aux saisonniers. Pour plusieurs centres de villégiature, une liste d'attente est utilisée pour gérer l'arrivage de nouveaux saisonniers. Certains ont tellement de noms qu'ils ont dû fermer la liste. Pour le centre de villégiature d'Amanterre, la liste a été fermée en 2013 en raison de la trop grande demande. Pour le camping Mont-Plaisant à Roberval, la liste est fermée depuis environ 8 ans. Il y avait environ 350 noms d'inscrits et l'organisation commence à en venir à bout. Le camping Colonie Notre-Dame à Alma, quant à elle, avait près de 150 noms sur sa liste. Sa responsable, Dolores Villeneuve, a estimé qu'il prenait entre 6 et 10 ans à un saisonnier sur la liste pour avoir un terrain. « Pour nous, c'est bon signe, ça veut dire que les gens aiment ça ici », a indiqué la responsable. Tous les campings sont touchés par cette demande grandissante. Le camping Sainte-Monique, qui compte seulement 15 saisonniers, a deux personnes sur sa liste d'attente. Pour le camping de la Chute à Dolbeau, la liste d'attente est un peu plus longue, avec une trentaine de noms. Mais ce n'est pas parce que les listes sont plus courtes que les temps d'attente sont moins longs. Les campeurs ne quittent pas leur terrain toutes les années. Lynn Lavoie, responsable du camping de la plage Saint-Jude, affirme que cela variait beaucoup selon les années. Pendant 4 ans, personne n'a quitté, mais souvent c'est un départ par année, indique la responsable. De nombreux campings essaient de limiter le problème. En fermant les listes, les responsables essaient de satisfaire plus rapidement les voyageurs qui attendent depuis de nombreuses années. Le camping Bailey à Saint-Henri-de-Taillon a décidé de donner une chance égale à tout le monde. Son conseil d'administration s'est départi de sa liste d'attente de 250 noms pour rappeler tout le monde et faire un tirage avec ceux qui étaient toujours intéressés. Chaque été, le tirage sera refait. Pour le camping La Chute, les saisonniers ne peuvent rester que 3 étés. Après, ils retournent à la fin de la liste. Après 3 ou 4 ans, ils reçoivent habituellement un terrain nouveau. Rappelons que le camping de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis a admis vouloir retirer des saisonniers pour laisser une plus grande place aux touristes. Cette vision est partagée par quelques campings de la région. Le camping Colonie Notre-Dame à Alma prévoit un agrandissement dans ce sens, mais on ne souhaite surtout pas se débarrasser des saisonniers. « Nous agrandissons parce que nous avons l'espace pour le faire », a confirmé Dolores Villeneuve. Le responsable du camping de Lens, Annick Boudreau, a aussi affirmé que le nombre de saisonniers avait diminué un peu dans son camping pour laisser la place à plus de voyageurs. Alors, si vous pensez que le camping, c'est hot, eh bien, pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, c'est certain. Ah, la prière au conseil municipal. On pensait que c'était fini. Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé, comment dirais-je, des trucs pour contourner le problème. Et Gabriel Delisle nous en parle dans le Nouvelliste, un texte intitulé « Le débat est toujours vif ». Le maire de Louisville, Yvon Déhais, fait à nouveau face à de vives critiques à la suite de sa volonté d'évoquer Dieu et la croix avant les assemblées publiques du conseil municipal en récitant des paroles de l'Au Canada. Un opposant à la prière au conseil croit même que le maire est d'une inconscience profonde. Pour la première fois, l'assemblée publique du conseil s'est ouverte avec la récitation de quelques paroles de l'hymne national du Canada. Le texte se termine toutefois par « Que Dieu protège notre pays, sa gloire et sa liberté », mots qui ne sont pas dans l'hymne. Lors de la lecture des paroles de l'hymne national, le conseiller municipal Mike Touzin est resté assis. Il s'était d'ailleurs opposé à ce que les élus récitent des paroles de l'Au Canada à l'ouverture des assemblées publiques. Michel Thibault, un citoyen opposé à la prière et ancien candidat à la mairie, a demandé au maire Déhais lors de la première période de questions s'il avait consulté la population avant de proposer de réciter des paroles de l'hymne national qui évoquent Dieu et la croix. Le maire a répondu qu'il avait demandé aux citoyens présents lors de l'Assemblée le 11 juin dernier, mais Michel Thibault a affirmé que cette consultation n'était pas suffisante. « J'aurais aimé que vous passiez plus de temps à résoudre les problèmes de citoyens plutôt que de vous adonner à votre hobby », a dénoncé Michel Thibault en faisant référence à la volonté du maire d'évoquer Dieu avant les séances du conseil municipal et d'afficher un crucifix dans la salle du conseil. À Green Bay, une résidence soleil risque de rejoindre le groupe des résidences soleil qui vont connaître un conflit de travail. C'est ce que nous rapporte Pascal Fauché. Les employés des résidences soleil Manoir Green Bay bientôt en grève. Jugeant leurs conditions de travail inadéquates, les employés des résidences soleil Manoir Green Bay mettent leurs menaces à exécution et feront la grève à partir du 17 juillet. Ils se joindront aux employés de 4 autres établissements du groupe Savoie situés à Mont-Saint-Hilaire, Pointe-aux-Trembles, Ville-Saint-Laurent et Laval qui ont refusé les dernières offres de l'employeur. À Green Bay, la 50aine d'employés l'ont fait dans une proportion de 97 %. Comme ils doivent légalement continuer d'assurer les services essentiels, les préposés aux bénéficiaires, employés de cuisine et d'entretien, n'arrêteront pas de travailler et manifesteront durant leur pause, leur heure de dîner, ainsi qu'avant et après leur quart de travail, indique Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques chez les Teamsters. Les quelques 300 membres de ce syndicat qui travaillent pour les résidences soleil, en majorité des femmes, revendiquent de meilleurs salaires et une charge de travail moins lourde. En cours depuis plusieurs mois, les négociations sont rompues et aucune autre date de rencontre n'est prévue. Il y a un retard salarial important pour les travailleurs du secteur privé, puisque ces derniers gagnent jusqu'à 6 $ de moins que leurs confrères et consoeurs du public, dit M. Lacroix. Pourtant, ils font le même travail et prennent soin des aînés avec le même dévouement. Le salaire à l'embauche des employés des résidences Soleil oscille entre 14 et 15 $ de l'heure, soit de 2 à 3 $ de plus que le salaire minimum. Encore une pause et ce sera au tour des nouvelles culturelles. À tout de suite!